Ambient Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambient Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce soir dans les studios de Radio Graphite. Je reçois un artiste ambiante électro qui va nous parler notamment de son album Doppler. Étienne est parmi nous avec son alias Abran. Eh ben, bonsoir Étienne.
Bonsoir.
Bienvenue et ben merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Ambient Memory.
Merci à toi, c'est avec plaisir.
Eh ben écoute, le plaisir est partagé. Comme on fait habituellement au début de l'émission, je demande toujours à l'artiste de se présenter en quelques mots, en quelques lignes. Justement, est-ce que tu peux te présenter ?
Ouais, alors je m'appelle Étienne Abran. Mon nom de scène, c'est Abran, du coup. J'ai 25 ans, ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai commencé la musique. Et plus particulièrement la musique électronique avec le projet Abran depuis 5 ans.
D'accord. Comment en es-tu venu ? Est-ce que tu étais musicien au départ ou est-ce que tu es autodidacte ? Enfin, comment a germé cette envie de faire de la musique d'une manière générale ?
Alors j'ai une formation de musique classique. J'ai commencé à l'âge de 11 ans à un conservatoire régional dans la région de Picardie pour faire de la guitare. Donc j'y ai appris le solfège, je faisais de la chorale et donc de la guitare classique, rock et de la basse. Donc ça a un peu forgé le début d'une structure de connaissances musicales, d'une passion pour jouer des instruments. Et ensuite, avec les années, j'ai découvert la musique électronique, d'abord en la consommant bien sûr. Et puis je me suis vite pris de passion par les logiciels qui permettaient de la composer. Et ensuite, c'est venu comme ça. J'ai utilisé ma base de connaissances de la musique classique et de la guitare pour aller explorer le terrain de la musique électronique.
D'accord. Est-ce que tu jouais dans un groupe, quand tu faisais de la guitare ou d'autres instruments ? Si c'est le cas, ça t'a peut-être aussi aidé à te forger, en tout cas à mieux appréhender la scène, peut-être aussi ?
Ouais, alors à l'école de guitare, on avait un ensemble rock qui permettait de jouer en groupe toutes les semaines et de faire des auditions. Donc ça, on peut dire que c'est vraiment ma toute première expérience de jeu sur une scène et avec des gens. Donc je pense que ça m'a indirectement bien aidé. Et ensuite, au lycée, j'ai eu un groupe avec lequel on s'amusait à faire déjà de la musique électronique, mais avec les instruments qu'on maîtrisait chacun. On était quatre et à nous quatre, on maîtrisait du coup la guitare, la trompette, le chant et la flûte. Et du coup, là, c'était le premier groupe vraiment où on sortait des musiques électroniques, faites quand même en partie avec des instruments réels. Et ça a été le premier projet musical passion qui se développait, quoi.
Quand vous avez fait des événements, est-ce que vous avez fait aussi des supports physiques, genre peut-être CD, cassette ou autre ?
Alors avec ce groupe, au début on faisait surtout de la musique dans nos chambres, dans nos caves même, donc ça sortait pas de là pendant un moment. Et quand on a décidé à sortir quelques morceaux, on a vu que pour l'époque en tout cas et pour nos âges de lycéens, ça marchait déjà plutôt bien. Et ça nous a permis de faire quelques tremplins, donc des scènes ouvertes et des concours de scènes pour pouvoir gagner des places dans des festivals. Et notamment dans la région, on a fait le tremplin de l'Imaginarium Festival qu'on avait remporté à l'époque. Donc j'avais 18 ans, il me semble, et l'Imaginarium Festival a été ma première, une de mes toutes premières scènes et ma première grosse scène, quoi, puisque on a joué sous le chapiteau un samedi soir. C'était vraiment cool.
Voilà, c'était la grosse scène. Alors pour ce moment-là.
C'est ça, pour mon âge, pour l'expérience que j'avais à cette époque, c'était déjà très très gros, donc c'était une super expérience. Ouais.
Voilà, et donc de fil en aiguille, après tu t'es orienté, comme tu disais, vers les musiques électroniques, en écoutant, ce qui t'a peut-être aussi inspiré, j'imagine.
Ouais, alors en poussant de plus en plus loin dans ce monde-là, forcément mon oreille s'est affinée de plus en plus. Au début, quand on découvre un monde, on écoute un peu ce qui est accessible en premier lieu, donc la radio, ce qu'on voit sur YouTube en première page, ce qu'on voit sur SoundCloud en première page. Donc forcément, naturellement, c'était de la musique qui était plus grand public et plus diffusée partout, justement. Et plus je creusais dans le milieu, et plus j'ai découvert une passion d'aller trouver des sons que les gens écoutaient peut-être un peu moins, avec de moins en moins de paroles, de moins en moins de vrais instruments, ou alors des vrais instruments, des vrais synthétiseurs, mais qui sont des niches et qui font des sons très particuliers. Et c'est comme ça que j'ai découvert un pan de la musique électronique peut-être moins connu du grand public. Donc l'ambiance, la techno, l'électronica. Et à partir du moment où j'ai goûté à ça, bah, c'est devenu le style musical que j'écoute et que j'aime faire maintenant. Donc c'est un peu ça qui a donné naissance au projet Abran, puisque la vie a fait que mon ancien groupe a fini par s'arrêter, puisque les chemins de la vie de chacun a fait que le groupe s'est terminé tout à fait naturellement. Et puis j'ai continué moi à faire de la musique dans mon coin avec mes nouvelles références, mes nouveaux artistes idoles et mes nouvelles envies. Et donc ça a donné Abran il y a maintenant 5 ans. Et voilà.
D'accord. Est-ce qu'il y a des artistes justement qui t'inspirent, qui t'ont inspiré au début et qui t'inspirent d'ailleurs toujours ?
Carrément. Les artistes qui m'inspirent beaucoup, on va les trouver surtout en Allemagne, en Angleterre et aussi en France, parce qu'on a une belle scène électronique en France. Mais on va retrouver du John Hopkins, Chiasmos, Nils Fram, Rival Console, Daniel Evry, des artistes comme ça. Et c'est pas forcément les artistes les plus jeunes de leur génération, mais c'est justement ceux qui ont un peu imposé ce style, que ce soit dans les clubs à Londres, les clubs à Berlin, et qui ont un peu popularisé un petit peu plus ce style-là. Donc c'est vraiment les artistes que j'aime beaucoup et qui me donnent des idées au quotidien.
D'accord, donc après la création d'Abran, donc c'est ton nom de famille du coup.
C'est ça.
Donc ça a été simplement trouvé, mûrement réfléchi, simplement trouvé, j'imagine.
Ouais. C'est sûr que c'est la facilité, mais c'était aussi un nom qui se lit, qui se dit assez facilement, qui n'est pas trop long, qui peut être un peu graphique pour un logo. Je trouvais que ça fonctionnait bien en nom d'artiste. Et puis, quand on est beaucoup plus jeune et qu'on lance des projets, des fois c'est avec des pseudos un petit peu nuls, donc j'en ai accumulé quelques-uns étant beaucoup plus jeune qui finissaient par me lasser au bout de 2 mois. Donc je me suis dit, au moins mon nom de famille, ça ne me lassera jamais. Et on est parti avec Abran.
Et donc du coup, tu as commencé, j'imagine, tranquillement de ton côté à te familiariser peut-être avec des logiciels, des machines. Enfin, comment a commencé ce projet Abran, justement ?
Alors, je viens plus des instruments de par ma formation de guitare et de musique plutôt classique. Et dès que j'ai découvert la musique électronique et le processus de composition de la musique électronique, je me suis renseigné sur quel logiciel on utilisait, comment ça marchait, comment je pouvais le faire moi dans ma chambre. Et donc à l'époque au lycée, j'ai découvert Fruity Loops, FL Studio, qui a été mon premier logiciel. Et donc là, on passe du coup plus sur un côté autodidacte, parce qu'à cette période-là, personne dans mon entourage faisait ça. Et donc, j'ai appris avec des tutoriels sur YouTube, comme un peu tout le monde au début. Donc beaucoup de FL Studio, jusqu'à ce que je réalise que Ableton Live existait, que beaucoup d'artistes dans mes références l'utilisaient, et qu'il était très pratique pour la scène et le live. Du coup, j'ai eu ce switch entre FL Studio et Ableton quelques années après, donc à la fin du lycée et début des études. Et donc maintenant, je suis exclusivement sur Ableton, et j'utilise tout un tas de plugins, de logiciels intégrés, et des synthés analogiques réels dans mon home studio. Thank you.
D'accord, tu as commencé par de la production. Est-ce que tu es arrivé assez rapidement à faire du live ou il s'est passé un certain temps avant que ça arrive ?
Alors, le live a toujours existé dans la réflexion du projet, en tout cas. Le groupe que j'avais au lycée, justement, fonctionnait aussi comme ça. On faisait des musiques dans nos chambres, mais en fait, on n'avait qu'une envie, c'était de les jouer. Et d'ailleurs, on était tous instrumentistes de base, donc je pense que c'était dans notre nature de vouloir jouer la musique. Donc en fait, ça a toujours été intégré dans la manière de faire, de directement penser au live. Après, je me suis aussi découvert la passion du studio, le côté un peu geek des machines, d'aller triturer un peu les synthés, les effets, les plugins. Et ça c'est quelque chose que je me suis découvert un petit peu après, finalement, et que j'adore tout autant. Donc je pense qu'aujourd'hui, après ces années-là, c'est un bon mélange des deux. Le live est vraiment quelque chose que j'adore et que je ferai toujours, que j'essaye de développer. Donc c'est toujours dans un coin de ma tête. Mais par contre, j'adore passer des nuits entières, s'il le faut, sur des tout petits détails, des machines ou des logiciels en studio.
Et du coup, les lives, tu disais que tu étais de la Picardie. Est-ce que tu as envoyé des démos, les morceaux que tu as faits pour justement que ça puisse t'amener différentes choses, peut-être d'enregistrer justement un album ou justement d'être programmé sur des festivals ou d'autres événements?
Ouais, c'est ça. Alors au début, forcément, on commence vraiment tout seul. Donc la musique, c'était quelque chose que je faisais dans ma chambre, que j'envoyais aux amis, à la famille, et c'est tout. Et ensuite, plus l'envie, soit d'en vivre, soit au moins de faire grossir le projet, avançait, et plus j'essayais de me donner les moyens de rentrer en contact avec n'importe qui, mais des gens du milieu. Parce que forcément, mon entourage proche n'est pas forcément des gens de la musique. C'est même plutôt rare. Du coup, y a aussi une petite partie management, on va dire, qui s'est installée tout naturellement. Donc, quand je faisais de la musique, j'essayais de la faire écouter à plus de gens, à plus de gens du milieu, à essayer de trouver si dans la région, il n'y avait pas des ingénieurs du son, des autres gens avec qui faire de la musique, des gens qui pouvaient prêter du matériel, etc. Et de fil en aiguille, ça m'a fait réaliser qu'il y avait certaines choses qui existaient. Ça peut être des tremplins, ça peut être des accompagnements, etc. Et donc, j'ai commencé à postuler au tremplin qui était disponible dans la région. C'est comme ça qu'avec mon groupe, on avait pu faire le tremplin de l'Imaginarium Festival. Et quelques années plus tard, avec du coup mon projet solo Abran, j'ai eu la chance de pouvoir faire les auditions du festival Inouï du Printemps de Bourges. Et donc ça... Donc j'ai passé les auditions sans malheureusement accéder à la suite et d'être sélectionné comme gagnant du tremplin. Mais au moins la participation aux auditions m'a fait mettre un pied dans un événement où il n'y a que des pros de la musique, de la région et même du pays quasiment, parce que les Inuits du Printemps de Bourges, c'est quand même un festival et un dispositif de repérage national qui est très connu. Donc ça, c'était chouette. Ça m'a fait rencontrer notamment mon ingénieur du son avec qui je continue de bosser encore aujourd'hui et encore pour de longues années, je pense. C'est Olivier Vasseur. Donc il était à l'époque un peu un ingénieur du son référent dans la région. Il travaillait avec beaucoup d'artistes de la région et il était là le soir du tremplin. Donc on a pu rentrer en contact, échanger et démarrer une belle collaboration grâce à ça. Donc ça a été un peu le point de départ du début d'un entourage professionnel dans mon projet, qui jusqu'à cette date-là était vraiment quelque chose que je faisais tout seul dans ma chambre.
Justement, ça vous déporte et ça t'a amené peut-être à produire différents morceaux. Alors arrête-moi si je me trompe, est-ce que c'est un single ou un album ou un EP Ultra V? C'est simplement un morceau ou un...
C'est ça, Ultra V, c'est un morceau issu de mon dernier EP Doppler.
D'accord, donc ça a été vraiment un petit peu un single qui a été fait dans les prémices. Enfin, est-ce que tu savais déjà que du coup allait suivre l'album Doppler ou
Ouais, alors déjà j'aime bien la forme EP. Donc un EP en fait c'est un mini album donc qui peut aller de 3 à 6 ou 7 morceaux en général. Et je ne me sens pas encore assez expérimenté ou mature dans le projet pour faire un album entier de 15 morceaux. Ça prend beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup de budget, etc. Donc la formule EP, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui se fait assez couramment dans la musique électronique. Donc en général, quand je compose, je sais déjà un peu à l'avance si ça va devenir un EP ou si ça reste juste un single. Donc Ultra V, en l'occurrence, c'était une composition qui était de base prévue dans un opus, quoi, donc dans un projet avec plusieurs morceaux. Par contre, après, sur chacun des morceaux individuellement, j'essaye de m'amuser à explorer différentes choses, qu'ils ne se ressemblent pas trop tous. Et Ultra V, notamment, c'est un bel exemple d'une exploration assez différente. C'est un morceau vraiment qui est à 100% ambiante. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de rythmique qui donne un tempo, c'est assez désarticulé, etc. Donc je me laisse la liberté de me permettre d'aller un peu plus loin que les codes récurrents de la musique électronique. Donc voilà pour Ultra V.
Et donc après est venu Doppler, donc c'est un mélange d'ambiance, d'électronique, enfin de plusieurs styles. Je ne sais pas si on peut cataloguer, parce qu'on est toujours en train d'essayer de cataloguer justement la musique, mais c'est, je pense, un ensemble de tout ça, ces différentes couleurs musicales qui restent dans l'électronique.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est vrai que la musique est un peu difficile à classifier. Il y a un style que j'aime bien et c'est un style que j'aime bien coller à mon projet, c'est l'electronica. En fait, c'est de la musique électronique qui est faite à partir d'éléments naturels, de la vraie vie, etc. Donc ça peut être des éléments en bois, en acier, l'air, l'eau, le vent, n'importe quoi. Et qui ajoute une espèce de couche un peu naturelle et des textures un peu organiques, en fait, comme on dit. Donc ça, c'est un style que j'aime bien. C'est un style que j'aime bien associer à mon projet, en tout cas. Et l'ambiance, c'est quelque chose que j'adore en termes d'émotions et de sensations que ça procure. Donc j'essaye de faire un mélange des deux, en fait, musique électronique, musique classique, musique ambiante. C'est un peu un mélange de tout ça, Abraham.
D'accord, c'est pas vraiment du field recording, parce que souvent le field recording, ce sont des sons que l'on prend de la nature ou de l'environnement urbain. Là, c'est vraiment des textures plus utilisées, ouais. Métal, bois.
C'est ça, et qui peuvent être traitées à l'infini si on le souhaite. Après, ça peut donner vraiment des sons très originaux selon les effets qu'on met. On peut triturer ça dans tous les sens. Et ça, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans ce style de musique. Il y a un peu cette quête du son qu'on n'a jamais entendu ailleurs et qui vient texturer très très fort les morceaux. Et moi, c'est ce que j'adore. On peut remarquer d'ailleurs dans mes morceaux que c'est des morceaux avec pas beaucoup d'éléments. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir plein de mélodies différentes, plein de structures différentes. C'est très minimaliste. Et par contre, il y a des textures très fortes et très prononcées. Notamment dans le morceau mono, par exemple, dans l'EP de Doppler. C'est une très belle démonstration d'un morceau où il n'y a pas grand-chose, qui déroule bien et qui a une texture très 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 présente, une espèce de souffle chaud, là, beaucoup de grains, et ça, j'adore.
Ben, c'est un morceau que j'aime beaucoup, et c'est vrai que l'ambiance, ça envoie des images, des émotions, une chaleur, un grain, comme tu disais juste avant, qui est assez sympathique. Alors pourquoi Doppler? Parce que la définition de Doppler, c'est en fait c'est une radiographie avec des ultrasons, mais on n'entend pas les ultrasons. Donc est-ce qu'il y a une explication à tout ça, ou c'est un titre d'EP qui te plaisait?
Alors en fait, Doppler, si on revient à la base, quand je compose un EP, avant même que toute la musique existe, avant de commencer les morceaux, j'aime bien trouver un concept très fort qui marche aussi bien dans la musique que dans l'image. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à côté de mon projet musical, j'ai une formation de graphiste. Je fais beaucoup d'audiovisuel et l'image est quelque chose d'ultra important dans tout ce que je fais, dont dans mon projet musical. Et donc j'associe toujours les deux, en fait. Je pense toujours à l'image quand je fais du son et je pense toujours au son quand je fais de l'image. Je trouve ça très inspirant, le fait de pouvoir imager des sons. Donc en fait, avant de commencer l'EP, je me suis intéressé à l'effet Doppler, qui est un phénomène scientifique qui est déjà très passionnant dans son fonctionnement. Et j'ai réalisé, en faisant des recherches sur le tas, que c'était quelque chose applicable et à la lumière et au son. Donc en fait, pour rappeler peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'effet Doppler, si on revient à la base de ce phénomène scientifique, l'effet Doppler, c'est la déformation des ondes. Ça peut être de plein d'ondes différentes, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressante. Donc souvent l'exemple qu'on prend pour expliquer ce que c'est l'effet Doppler au grand public, c'est typiquement quand une ambulance passe dans la rue, on va entendre sa sirène d'une tonalité différente selon si elle est loin ou si elle est proche de nous. Et en fait, c'est ça l'effet Doppler, c'est un objet qui se déplace à une vitesse, un autre objet qui se déplace à une vitesse différente, et il y en a un qui émet un son à l'autre. Et comme ils n'ont pas tous les deux la même vitesse ou la même trajectoire, le son il va être perçu différemment selon la distance qui les sépare. C'est pour ça que l'ambulance, on va l'entendre aiguë au moment où elle passe et que son son il devient de plus en plus grave quand elle repart. Donc ce concept-là est déjà, je trouve, passionnant. Je me suis dit, j'aimerais bien faire de la musique autour de ça, essayer d'intégrer cet effet de distorsion des ondes dans les morceaux. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de faire en studio avec Olivier Vasseur. Et ensuite, ça aurait pu suffire là, pour faire un concept d'EP, mais j'ai réalisé que ça marchait aussi avec les ondes lumineuses, c'est-à-dire que bah, certains objets dans la vie peuvent changer de couleur grâce à toujours cette vitesse de déplacement, selon s'ils sont proches ou éloignés de nous. Typiquement dans le monde de l'astronomie, les étoiles, c'est pour ça qu'on les voit plus ou moins bleues ou plus ou moins rouges. C'est en fonction de la vitesse qu'elles ont dans le ciel et selon si elles se rapprochent de la Terre ou si elles s'éloignent de la Terre. Donc en fait, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit bah, c'est une super idée et un super concept à creuser aussi bien dans les visuels de l'EP que dans les morceaux de l'EP. Donc c'est ce qui a donné Doppler. Étant graphiste, du coup, j'ai pu m'éclater et gérer toute la partie visuelle de l'EP, que ce soit les pochettes, les teasers, le vinyle, etc. Je me suis vraiment amusé là-dessus. Donc, vous remarquerez que j'ai utilisé le spectre de couleurs des étoiles, donc qui vont du rouge au bleu, des couleurs chaudes aux couleurs froides. Et dans les sons, du coup, on a intégré l'effet Doppler directement sur certaines pistes d'instruments. En fait, si vous écoutez attentivement les morceaux avec soit un casque bien fermé, soit des AirPods ou un système de diffusion qui permet vraiment de spatialiser un peu le son. En fait, il y a certains éléments des morceaux qui tournent à 360 degrés autour de la tête. On a mixé l'EP Doppler en Dolby Atmos pour pouvoir amplifier justement cet effet tout autour de la tête pour l'auditeur. Et pour pousser donc l'effet Doppler à son maximum de potentiel, on s'est installé dans le studio d'Olivier. On a bricolé une petite installation pour mettre une enceinte au sol et un micro suspendu au câble qui faisait un balancier au-dessus de l'enceinte. Et en fait, on déterminait un instrument de chaque morceau qu'on diffusait dans l'enceinte qui était au sol. Et le micro au-dessus de l'enceinte faisait un grand mouvement de pendulier et de balance au-dessus de l'enceinte qui jouait la piste en question. Et donc la prise son que le micro prenait faisait entendre le déphasage du son au moment où elle passait au-dessus de l'enceinte. Et ça a fait un vrai effet Doppler qu'on a réincorporé dans le morceau. Et souvent on peut l'entendre particulièrement dans l'intro de chaque morceau, ce petit effet de distorsion. Voilà, c'est le petit détail à aller chercher dans l'EP.
D'accord, oui. Donc c'est l'effet Doppler et pas le Doppler, donc la radiographie, ouais, comme je disais au début. Donc ouais, on parlait de la pochette, effectivement, qui est très jolie, donc l'aspect graphisme. Ouais. Et du coup, bah, lors d'événements, c'est pareil, tu as des projections vidéo en plus de la musique.
Oui, c'est ça. Donc cet EP, quand on a décidé de le décliner en un spectacle live, puisque les morceaux, en fait, on les fait en studio dans un premier temps pour pouvoir les sortir sur un disque ou sur les plateformes de streaming. Et ensuite, le travail d'après, c'est de les décliner en version live, pour pouvoir les jouer avec peut-être un peu plus de modulation, un peu plus d'improvisation, etc. Et donc pendant ce travail-là, en parallèle, j'essaye de travailler l'aspect visuel du show. Et donc quand j'en ai l'opportunité, la technique et le budget, il y a un vidging, donc une diffusion de vidéos sur écran qui m'accompagne sur scène. Donc moi, je suis positionné devant l'écran et on voit que ma silhouette. Et il y a tout un tas de clips vidéo abstraits qui montrent des espèces de paysages visuels. Et donc, par exemple, pour mon premier EP que j'ai sorti avant Doppler, qui s'appelle Fram, j'ai collaboré avec un artiste vidéaste et VJ qui s'appelle Julien Appert et qui a vraiment une patte de visuel très texturé aussi, qui collait bien à mon projet, que j'aime beaucoup, et qui filme en macroscopie avec des jeux de lumière, etc. C'est super joli, je vous invite à aller voir son boulot. Et donc, j'ai travaillé avec lui pour le premier EP, et là, pour le deuxième EP, c'est moi qui ai fait entièrement toute la partie visuelle, que ce soit pour les clips et pour la pochette du vinyle.
Thank you.
justement, il y a quelques clips qui sont sortis par rapport à l'EP. Donc, j'allais y venir. Donc, c'est toi qui as conceptualisé de A à Z tous ces clips.
Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait un clip sur le morceau Lidar. Et donc, pour ce clip, je suis rentré en contact aussi avec une artiste qui est motion designeuse. Et en fait, le clip est une collaboration entre nous deux. Elle a fait des sortes de tableaux abstraits de motion design qui viennent faire animer, bouger des formes géométriques qui sont super jolies. Et moi, j'ai fait un décor 3D d'un observatoire spatial, justement. Et le LIDAR, en fait, c'est une technologie qui utilise l'effet Doppler et qu'on peut retrouver dans les télescopes d'observation spatiale, aussi dans les sous-marins, dans la radiographie, comme on évoquait. Et donc, le clip de LIDAR, c'est en fait un voyage dans un décor d'observatoire spatial qui est perché en haut d'une montagne. Et en fait, le clip, c'est que c'est une caméra qui survole l'observatoire, qui rentre dans le télescope. Et là, on découvre tout un monde complètement abstrait, un peu onirique, qui nous transporte vers des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc moi, je me suis occupé de l'animation 3D de l'observatoire qui est perché en haut de la montagne. Et Pia Vidal, son nom, c'est une artiste, du coup, motion designer, qui s'est occupée de faire les tableaux abstraits qu'on retrouve à l'intérieur du télescope.
Après, donc, il y a une liste bien précise. Donc, je pense que c'est une continuité de ce voyage d'effet Doppler. Donc, il y a Mono, on en parlait tout à l'heure. Donc, c'est le premier morceau de l'EP. Ensuite, il y a Alpha, Lidar, dont tu parlais il y a quelques instants. Donc, Ultra V, donc c'était vraiment le tout premier morceau, le single qui est sorti en premier. Et pour terminer, donc, Doppler qui conclut en fait cette EP. Donc, il y a une cohérence, une histoire, j'imagine, par rapport à l'ordre de ces titres.
Oui, c'est ça. Alors, les titres, déjà, ils sont choisis pour rester dans le champ lexical de l'effet Doppler. Donc, ça va être, comme j'expliquais, l'effet Doppler étant applicable aussi bien dans l'univers visuel que dans l'univers sonore. J'ai choisi des noms qui traitent un peu des phénomènes visuels ou des phénomènes sonores. Donc, j'expliquais, le LIDAR, c'est une technologie dans la science qui est beaucoup utilisée avec l'effet Doppler. Doppler, donc, de son nom éponyme. Ultra V pour ultraviolet, parce que c'est des ondes qu'on n'a pas l'habitude et qu'on ne peut pas percevoir comme ça avec nos sens humains. Et qui sont observables via des outils scientifiques, justement. Mono, donc, du coup, c'est plus pour l'aspect sonore, donc c'est l'inverse ultime de la spatialisation, puisque mono, c'est le fait justement de diffuser via un seul canal centré avant que la stéréo existe. Et voilà. Et alpha, donc, c'est la transparence à l'image, c'est l'absence de couleur ou l'absorption, si on veut le voir comme ça aussi. Donc, c'était des sortes de mini-concepts dans le concept, tous ces titres, pour essayer d'aller explorer quelque chose d'intéressant en images et en son.
Il y a eu aussi, donc, du coup, dans la continuité, j'imagine, des remixes qui ont été faits de cette EP, enfin, de certains morceaux. Comment sont venues ces collaborations ? Est-ce que ça a été naturel ? Est-ce que c'est des gens que tu as démarché en disant, tiens, est-ce que tu veux bien remixer tel ou tel morceau ? Enfin, comment ça s'est passé ?
Ouais, c'est un peu ça. Déjà, c'est vrai que les remixes, c'est un peu quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans la musique électronique. Ça permet plusieurs choses. Déjà, ça permet de ressortir un projet qui est lié à l'EP quelques mois plus tard et donc de continuer de faire vivre l'EP. Donc, c'est vrai que quand on passe des mois, voire des années sur un EP, le jour où il est sorti, c'est fini, il est sorti. Et à part les quelques semaines de communication qu'on fait sur les réseaux sociaux, etc., on passe vite à autre chose. Et je trouve que, à mon sens, on ne reste pas assez longtemps sur le projet, on n'en parle pas assez. Et quand on s'y est investi vraiment très fort, je trouve ça chouette quand même d'en parler un peu plus, d'essayer de faire une narration, de faire vivre le truc au moins sur l'année où il est sorti. Donc ça m'a semblé naturel de sortir des remixes. Et aussi, c'est à mon sens très utile aussi pour soit mettre en lumière d'autres artistes, soit s'aider soi-même de la communauté d'autres artistes qui sont peut-être plus en place que nous pour aller toucher d'autres publics. Et donc moi, de ces deux postulats là, ça m'a semblé cool de proposer à des artistes déjà que j'aime profondément de remixer mes propres musiques. Et donc pour moi, du coup, c'est un peu un honneur, une chance de les avoir sur le projet. Et donc j'ai proposé à 4 artistes, dont Frieder Nigel, qui est un Allemand, qui est signé sur le label Infine. Il y a Bale, qui est un artiste de Chicago, qui est sur le label House of Youth. Il y a Appard, qui est aussi un Allemand, sur le label Key Records de Christian Loeffler. Et enfin, il y a un copain parisien qui s'appelle Thames. Et ces 4 artistes se réunissent autour de la même identité musicale que moi, c'est-à-dire cette musique électronica, ambiante, qui nous rassemble, quoi, finalement. Et donc, à part pour Thames, que je connais très bien dans la vie et avec qui l'échange était forcément plus simple, les 3 autres artistes, qui en plus sont internationaux, c'est des démarchages sur Instagram, tout simplement. Je les ai contactés, je me suis présenté, je leur ai envoyé un lien d'écoute de l'EP, et puis je leur ai dit que s'ils avaient un coup de cœur dans l'EP et que ça allait brancher, ce serait avec plaisir d'avoir un remix de leur part. Et donc ces 3-là ont accepté. Et donc ils ont fait chacun une super version de mes morceaux, et ça a donné l'EP Doppler Remixes, qui est paru quelques mois après Doppler, du coup.
Et justement, cet EP Doppler, où est-ce qu'on peut le trouver et sous quel format ?
Alors, l'EP Doppler, vous pouvez l'écouter sur tous les services de streaming habituels, sans problème. Et vous pouvez également l'acheter en vinyle, donc soit sur les sites de magasins comme Fnac, Cultura, Leclerc, soit directement sur mon site Bandcamp, donc qui est un site qui met en avant le soutien des artistes en premier. Et donc tout ça, c'est disponible via les liens que je mets sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, si vous allez par exemple sur ma page Instagram, le lien qu'il y a dans la biographie permet d'accéder à l'EP et à tous mes autres EP, aussi bien en digital qu'en physique.
Oui, mais c'est plutôt sympa du coup d'éditer un vinyle, ce qui n'est pas toujours évident à l'heure actuelle, de par le coût, etc. Après, souvent, c'est des éditions limitées. Voilà, est-ce que ça a été aussi une chance de pouvoir justement produire cet EP au format vinyle ou pas ?
Ouais, c'est clairement une chance et beaucoup d'investissement aussi. C'est-à-dire que, bah, en effet, c'est pas forcément à la portée de tout le monde et surtout pas si simple de comme ça pouvoir sortir un vinyle en claquant des doigts. Il y a énormément de choses à prendre en compte, notamment des délais de fabrication, des coûts de fabrication. Beaucoup de deadlines à respecter, faut vraiment anticiper la chose. Mais ce qui a permis ce qui a rendu ça possible, c'est que déjà, la manière dont je sors mes morceaux, c'est via mon propre label, qui s'appelle Relief Records, et que j'ai cofondé avec mon ami Lidston il y a 1 an et demi, 2 ans. Et donc, par volonté de rester indépendant et de sortir la musique qu'on aime de la façon qu'on aime, on a créé ce label Relief Records. Et Relief Records, on est en partenariat avec un distributeur qui s'appelle Curoneco, qui sont basés à Paris, et eux qui ont un corps de métier spécialisé dans la distribution de la musique, aussi bien dans le digital que dans le physique. Donc ça, l'avantage, c'est que aujourd'hui, il existe beaucoup de distributeurs uniquement digitaux, qui permettent uniquement de balancer notre musique sur les plateformes de streaming. Mais nous, on a choisi Curoneco parce que selon si on a envie de faire un vinyle, un CD ou du physique en plus, on peut le faire aussi avec eux. C'est centralisé avec les mêmes personnes, la même société. Donc c'est quand même plus pratique. Et après, bah, en fait, étant un artiste encore assez peu développé et avec peu de moyens, j'ai demandé à faire un pressing de la quantité minimum pour ne pas me retrouver avec 1500 disques que je n'arrive pas à vendre. Donc là, chez Curoneco, j'ai pu en faire presser 300, ce qui est déjà un beau lot, mais c'est un investissement, on va dire, sur le long terme, c'est-à-dire que je savais que je n'allais pas en vendre 300 la semaine de sortie de l'EP, mais par contre, ben, c'est un stock qui reste chez moi, que j'archive, et que je vais vendre petit à petit tout le long de ma carrière, je l'espère. Et voilà, d'ailleurs, le live est très important pour ça aussi, parce que souvent, quand on joue en concert, on amène un petit carton de vinyle ou de CD avec nous. Et c'est un lien qui est beaucoup plus direct. Si les gens ont aimé le concert, ils vont venir acheter un vinyle par la suite. Donc, Il y a plusieurs moyens de les vendre, ces vinyles. Donc je me suis dit, allez, je me lance, même si ça me coûte du temps et de l'argent. Et donc voilà, j'ai investi de mes moyens personnels pour avancer la fabrication de 300 vinyles que aujourd'hui j'ai reçus chez moi. Curoneco, qui sont le distributeur, en ont pris une partie pour distribuer à leur réseau de magasins. C'est grâce à ça que le vinyle est disponible, par exemple, à la Fnac, à Cultura et dans tous les disquaires indépendants de la région Picardie, Île-de-France et peut-être même un peu plus largement en France. Donc voilà, ça a permis de rendre disponible le vinyle vraiment partout. Ça, c'est super chouette. Ça fait quelque chose vraiment d'avoir un objet physique dans les mains qui contient ma musique. C'est vraiment très cool. D'autant plus que j'ai fait toute la partie visuelle. Donc, c'est vraiment un objet qui regroupe tout mon savoir-faire. Donc, c'est vraiment important pour moi.
Ouais, c'est du 100% en toi. Donc, c'est vrai que c'est très agréable aussi. Et puis, ce support qui revient à la mode. Et puis, voilà, c'est déjà rien que ça, un objet de collection, parce que le vinyle est transparent.
C'est ça. On
a précisé aussi. La pochette aussi est très jolie. Donc, même sans l'écouter, déjà, c'est un bel objet de collection.
C'est ça. Comme je disais, le visuel prend une place vraiment très importante dans ma réflexion, dans mon projet. C'est jamais dissocié de la musique. Donc, là, je me suis vraiment permis un terrain de jeu et d'amusement que de me faire mon propre vinyle. C'était vraiment super. Donc, du coup, quitte à avoir cette opportunité, j'en ai profité à vraiment travailler le truc pour que l'objet soit beau, qu'il soit un peu de collection, qu'on ait envie de l'afficher sur une étagère dans notre chambre. Donc, ouais, c'est pour ça que le disque est totalement transparent, c'est un peu original. Ça rappelle en plus un peu les anneaux des planètes. Il y a tous ces codes visuels de l'effet Doppler. Donc ouais, je me suis pas mal pris la tête là-dessus, mais je suis très content du résultat et j'espère qu'il y en aura d'autres.
qu'il y a du coup, comme tu disais tout à l'heure, voilà, l'EP est sorti et généralement on passe à la suite. Est-ce qu'il y a déjà des idées pour une suite, un album, un EP ou d'autres choses?
Oui, bien sûr, il y a toujours quelques idées. Donc en effet, là, Doppler est sorti, les remixes sont sortis, les clips sont sortis. Maintenant, l'étape... comment dire? Oui, maintenant, je vais me pencher aussi sur une étape importante, c'est le live. Donc j'ai composé ces morceaux, je les ai sortis. Maintenant, j'ai envie de les jouer, forcément, sur scène. Donc là, je suis en discussion un peu à droite à gauche. J'espère pouvoir avoir des dates de concert ou de festival sur l'année à venir pour pouvoir présenter encore ces morceaux sous une différente forme au plus grand nombre. Donc ça, ce serait chouette. Et notamment, donc là, j'ai appris récemment ma sélection au festival Crossroads qui a lieu à Roubaix. Et le Crossroads, en fait, c'est la particularité d'être un festival à destination des pros de la musique. Un peu comme le MAMA Convention à Paris. Et donc, c'est un festival qui dure sur plusieurs jours, dans lequel il y a des tables rondes, des conférences tenues par des pros de la musique qui permettent d'apprendre beaucoup de choses, de rencontrer beaucoup de gens. Un peu comme ça a été le cas avec les Inouïs du Printemps de Bourges il y a quelques années. Donc, c'est une nouvelle occasion de me faire connaître auprès de gens éventuellement intéressés. Donc ça, c'est chouette. Et puis du coup, j'y ferai un concert de 30 minutes, je crois, le soir, l'un des soirs du festival. Donc ça, c'est une belle actualité à venir, dont je suis très content. Et sinon, d'un point de vue nouveauté musicale, j'ai un projet à venir avec un ami artiste qui s'appelle Ghost in the Loop.
Je connais bien.
Ouais, qui est passé par ici il y a quelques temps.
Donc je rappelle que donc ton album est donc disponible toujours sur les différentes plateformes, comme je le disais tout à l'heure, notamment Bandcamp. Je précise ça parce que effectivement, c'est pour les artistes, Bandcamp c'est quand même pas mal au niveau justement rémunération, voilà, des différentes ventes des albums. L'EP qui est disponible en vinyle et il y en aura un à gagner. Voilà, dans l'émission Ambient Memory, un petit peu comme d'habitude, hein, y aura une question qui sera posée, un tirage au sort pour gagner le vinyle. Donc on a justement Étienne qui nous a gentiment proposé un vinyle que voilà, je ferai gagner lors d'un concours.
C'est ça, c'est avec plaisir que je vous laisse ce vinyle. Et puis, comme je disais, c'est vraiment un objet et un EP qui a été pensé pour le découvrir, quoi. Donc soit... Si vous ne connaissez pas du tout soit mon projet, soit même ce type de musique, c'est quelque chose qui s'écoute vraiment n'importe quand. L'objet peut s'afficher. C'est vraiment pensé pour que ce soit agréable et qu'on ait envie de le posséder. Donc voilà, si ça vous tente, je vous encourage vraiment à venir découvrir ce que je fais et à vous procurer l'album, s'il vous plaît.
Et puis voilà, si vous voulez d'autres infos, les réseaux sociaux, donc d'Abran, donc sur Instagram, voilà, si vous avez des questions à lui poser, ou passez par Ambient Memory, donc pareil, sur Instagram ou Facebook pour différentes informations, donc il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, puis on reste à l'affût de toutes les informations, on reste calé justement sur le profil Instagram, notamment pour les événements à venir.
Avec plaisir.
Merci Étienne d'être venu, d'avoir pris un petit peu de ton temps.
Merci à toi, c'était très cool.
Écoute, le plaisir est partagé. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très bientôt sur les ondes de Graphite ou se croiser sur un des événements où voilà, on pourra éventuellement se croiser, se voir, te voir vraiment pour proposer justement un joli live.
Ouais, ça marche. Merci beaucoup.
À très bientôt. Salut. Et bonne soirée encore.
émission se termine. Retrouvez toutes les infos sur l'Instagram de Abran, ses productions et ses événements à venir. Vous avez pu écouter lors de l'interview les morceaux suivants. Mono, Linard, extrait de son EP Doppler, Doppler remixé par Thames et Mono remixé par Fred Nagel, extrait de l'album remixé de Doppler. Dès demain, le podcast ainsi que la playlist qui sera disponible sur les plateformes habituelles et les réseaux sociaux d'Ambient Memory. Je vous donne quant à moi rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.
Ambient Memory sur Radio Graphite.